depuis, je suis. Je fais partie des grandes gueules de RMC depuis le début de ce mois de.
Assez rapidement, parce que vous n'aviez pas fini la carrière même.
Ouais, j'avais déjà commencé à travailler avec la chaîne Beansport pour les championnats du monde qui avaient lieu à Florence. Et j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours participé à pas mal d'émissions, des émissions locales par chez moi aussi sur le football. Je commente aussi des matchs de football avec une radio locale. Donc c'est toujours un plaisir et j'aime ce genre d'exercice.
Oui, parce que passionné de foot aussi, Jérôme Pinault, bien sûr.
Des
Canaries aussi, mais qui a dû apprécier le match d'hier soir. On imagine, pour parler de vous, Jérôme, peut-être pour ceux qui vous ont laissé, ben, lorsque vous avez cloué le vélo en fin de saison dernière, peut-être s'il y a d'autres projets, je crois un diplôme aussi de manager.
Oui, bien sûr, je suis en train de passer mon diplôme de manager au sein du CDES de Limoges, du Centre de droit et d'économie du sport de Limoges, et je fais partie des chanceux, je dirais, qui ont la chance de préparer ce métier au sein de cette école, avec parmi tous les gens de la promo, que des sportifs de haut niveau. Donc on échange beaucoup sur nos différentes disciplines et c'est vraiment très intéressant. Donc je passe ce diplôme-là actuellement et je serai diplômé, je l'espère, en juillet 2017.
D'accord, donc une actualité bien chargée, on l'imagine, et on a également vu quelques déclarations du coup de votre part ce week-end. Bah, vous êtes engagé du coup dans une association de coureurs. Est-ce que vous pourrez un petit peu l'expliquer? C'est vrai que c'est pas toujours clair pour tout le monde, hein, avec tout.
C'est pas vraiment une association, c'est un syndicat. C'est très exactement un syndicat. Ça s'appelle l'Union le syndicat des coureurs cyclistes professionnels.
D'accord.
UNCP. Et c'est un syndicat qui est là pour défendre la cause des coureurs, pour défendre les coureurs, pour les aider dans leur reconversion, dans leurs différentes démarches, parfois dans leur démarche professionnelle, pour trouver une équipe, pour essayer de les aider au quotidien, d'améliorer leur vie, améliorer leur carrière, leur donner des outils pour pouvoir progresser, et puis surtout rappeler leurs droits et puis leurs devoirs aussi. Donc voilà, tout ces genres de choses qui sont mises en place par le syndicat. Et je suis pas seulement membre officiel, mais je donne un coup de main au président qui est Pascal Chanteur pour toutes les démarches, et notamment auprès des joueurs qui arrivent dans ce milieu, qui c'est parfois pas très facile de comprendre les codes de ce milieu. Donc je les aide à comprendre tout ça et à comprendre la démarche, voilà.
D'accord. Et justement, Jérôme, même si on vous a un petit peu perdu là sur les dernières phrases, j'espère que vous n'êtes pas trop en train de bouger. Peut-être vous êtes vous êtes à la maison. Ok, bon.
Ouais.
Je ne sais pas si vous, dans quel coin de la France vous êtes, s'il y a le haut débit, mais vous êtes du côté de Nantes, du coup, ou pas, Jérôme?
Ouais, j'habite en banlieue nantaise, très exactement à Villeneuve-de-Bretagne.
D'accord. Et ben oui, justement, ben, par rapport à l'actualité, la difficile actualité de ce week-end, du coup, quand on est dans ce syndicat comme vous, on prend la parole et on essaye de représenter les coureurs également dans ces moments-là.
Bah, vous savez. Pour les nombreuses personnes qui ont suivi ma carrière et mon parcours, j'ai pas eu besoin d'être dans un syndicat pour donner mon avis et pour me mettre en avant sur des choses qui me révoltent. Et ce qui s'est passé ce week-end était dramatique. Ce qui s'est passé ce week-end est désastreux pour les familles, pour les proches. C'est à eux qu'on doit penser d'abord, mais aussi désastreux pour notre sport, parce que, encore une fois, je l'ai dit déjà dans les médias, ce qui s'est passé aurait dû être anticipé. On a déjà eu beaucoup d'alertes, beaucoup trop d'alertes ces dernières années sur les courses, qu'elles soient belges ou autres. Hein. Il y a eu des accidents sur la Vuelta, il y a eu des accidents sur tellement d'autres courses. Et mon coup de gueule, c'était effectivement de dire qu'il fallait remettre la sécurité et le coureur au centre du sport, au centre du projet, et ne pas faire passer en second plan les coureurs pour une question d'argent. Et c'est malheureusement le sentiment qu'on a beaucoup tous, les coureurs et les suiveurs, c'est que pour aller chercher supplémentaire, eh ben on invite 10 personnes de plus sur une course et on vend des services à des spectateurs, à des hommes qui sont prêts à investir dans le vélo pour venir voir une course et pour déplacer ces personnes-là, ben on leur met des véhicules à disposition et ces véhicules sont pas forcément pilotés par des gens compétents qui connaissent le vélo, et on sait la dangerosité d'une course cycliste, et il faut avoir au moins pratiqué ou connaître le mouvement d'un peloton pour pouvoir le doubler c'est arrivé malheureusement, ça peut se reproduire si l'UCI, si les instances ne réagissent pas très vite.
Julien ?
Oui, c'est vrai que, bonsoir, je le rejoins, c'est vrai que souvent, surtout on va dire chez les courses amateurs, des fois l'ordinateur, par manque de budget, va prendre des gens qui sont peut-être pas forcément formés, suffisamment formés, et au détriment de la sécurité des coureurs. C'est vrai que bon, dans les courses amateurs, on a plus des motos qui vont être là présentes pour assurer la sécurité, et souvent au détriment des courses pro, il va manquer plus de motards qu'il y en a en trop, à contrario des courses professionnelles où on a pu voir récemment où il y en a des fois beaucoup trop. On se demande même où il y a le coureur. Et c'est vrai que c'est devenu ça devient très très dangereux. En plus, avec les infrastructures routières qu'il y a, faut être un peu kamikaze ou très bon coureur cycliste pour arriver dans cette jungle là quoi.
Bien sûr, je crois que je suis complètement d'accord avec vous, et je dirais même qu'aujourd'hui les motards de la garde républicaine que l'on peut voir sur les différentes courses cyclistes, et notamment le Tour de France, sont des gens qui sont très très compétents, qui savent ce que c'est que de piloter une moto et qui connaissent très bien leur métier. Maintenant, pour piloter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un photographe, pour piloter un caméraman qui vient de je ne sais quel site, etc., on fait appel à de plus en plus de personnes, on a moins de temps pour les former, et donc on se retrouve avec des gens qui n'ont pas l'habitude, et en plus, quand on connaît la dangerosité de certaines chaussées, notamment dans des pays comme la Belgique ou les Pays-Bas, ça peut poser problème. Et ce qu'il faut aussi signaler, c'est que les frais de course, les frais de gendarmerie ont augmenté de plus de 200% ces 5 dernières années. Et ça, on peut encore remercier notre État, puisqu'il nous aide encore une fois, nous, le sport cycliste, à s'endetter encore plus. Et c'est clair que ça devient très problématique. Maintenant, je pense qu'à moyen coût et à très court terme, il va falloir mettre en place des règles. Ce que je proposais, c'est par exemple de ne pas doubler à n'importe quel moment, de mettre des zones de dépassement, de mettre des zones de limite de vitesse, parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas, et j'en suis même persuadé, qu'on ait besoin de rouler à 120 km/h en moto pour doubler un peloton qui va au maximum à 60. Plein de petites choses comme ça, et puis surtout limiter le nombre de pilotes moto pour transporter tout ce qui est photographe, etc., parce qu'on sait très bien qu'un cliché, on le retrouve assez vite, et ils ont tous le même cliché 100 fois, et c'est ce qui pose problème. Aujourd'hui, c'est la guerre dans celui qui va avoir la plus belle photo pour la vendre la mieux, et on met de plus en plus le coureur en danger. Quand on voit sur les courses belges notamment, et sur beaucoup de classiques où le coureur qui attaque le premier, qui prend le pull moto pour s'abriter, ben c'est souvent celui-là qui va au bout. Donc au-delà de la sécurité, ça joue aussi sur l'enjeu sportif, et il va falloir vite, vite y remédier.
Oui, après c'est vrai, je vous rejoins. Après c'est vrai que moi je suis plus rentré chez ASO depuis 2-3 ans. J'étais l'an dernier sur le tour en tant que pilote photographe. C'est vrai que il y a beaucoup de pression de la part du photographe, et il faut pas que le pilote, surtout moi j'ai la chance, ça fait 30 ans que je fais du vélo, donc je sais me déplacer, je sais quand ça va bordurer à droite à gauche. C'est vrai qu'un pilote, même s'il est très bon motard, va peut-être pas sentir ça, va peut-être avoir la pression du photographe, il va aller des fois dans des endroits où il faudra pas aller, et qui peut justement
Bien sûr. Moi vous savez, j'ai fait de nombreux kilomètres derrière scooter à l'entraînement, c'était l'un de mes entraînements préférés, et j'ai toujours dit à mon frère ou à mon entraîneur ensuite qui était sur la moto, c'est moi qui dirige la moto, c'est pas toi, et je pense que ça devrait être la même chose pour un pilote comme vous, chevronné, qui doit dire à son agent journaliste ou à son photographe ou à son invité, parce que ça peut aussi arriver, non, là je vais pas doubler parce que là c'est pas possible, et la photo tu la feras pas, ou tu la feras plus tard parce que là on peut pas doubler. Et si c'est pas comme ça la règle, mais c'est là qu'on met en danger les coureurs. Et malheureusement, les
drames
arrivent très vite.
Oui, Julien, oui, on vous écoute, Jérôme.
Au-delà de l'accident dramatique et qui s'en est subi du coureur, vous savez, renverser un coureur qui vient de passer professionnel, qui se casse un fémur et qui arrive en fin de contrat à la fin de l'année, c'est aussi des avis quelque part, parce qu'on ne peut pas.
Oui. Jérôme, on a perdu Jérôme. C'est vrai que le haut débit n'est peut-être pas partout encore en France. Je sais que les départements y travaillent.
Vous m'entendez ?
Oui, Jérôme. Voilà. C'est vrai qu'on est en train de dire du mal des départements qui mettaient pas le haut débit partout, et du coup ça remarche. C'est vrai que...
Non, chez moi, je vous rassure, il y a le
trait aussi. Ah
ouais, ok. Non, c'est vrai que c'est une histoire qui est très compliquée parce que, comme je disais tout à l'heure, on a deux échelles. On a la partie professionnelle où, voilà, il se passe des choses. On a la partie amateur. Je forme ici, sur la région Midi-Pyrénées, moi, des motards signaleurs. Et c'est vrai qu'on a pour l'instant une formation qui est un petit peu, et à mon goût, trop juste. Où on fait une journée de formation théorique où on va énormément échanger. Mais là, rien ne vaut la pratique avec un suivi, un encadrement d'un groupe moto qui va travailler. Mais encore une fois, chez les amateurs, des fois, il va manquer beaucoup de motos. Et des fois, ben, chez les pros, comme on voit, des fois, voilà, on l'a vu pas mal de courses. Hein, et notamment, même des voitures. On a vu récemment aussi qu'une voiture allait doubler quand il ne fallait pas. Voilà, c'est encore une fois un engagement des pilotes qui vont conduire ces véhicules-là, qui doivent vraiment prendre conscience que voilà, qu'un mélo, ce n'est pas une voiture. Quoi.
Mais vous savez, vous m'avez cité ASO, et c'est un exemple à suivre. ASO ne recrute que des coureurs, d'anciens coureurs, beaucoup sur les motos et notamment, et aussi dans les voitures. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, il y a un aspect commercial, puisque le coureur va pouvoir raconter son Tour de France, comment il a vécu les choses, expliquer la course à ses clients. Mais surtout, c'est que le coureur cycliste, il sent la course, il sent le peloton, il sait comment ça va vivre. Et un coureur cycliste n'aurait jamais fait, et j'en suis presque persuadé, l'erreur qu'a faite il y a 4 ans sur le Tour le pilote de France Télévisions en renversant l'échappée, parce qu'on sait très bien que ça serait pas passé. Il y a plein de choses comme ça et ces sociétés-là doivent être mises en exemple. C'est comme ça qu'on doit faire le vélo, c'est comme ça qu'on doit accompagner les courses de vélo et pas autrement. Sinon, c'est au détriment de la santé et de la sécurité des coureurs.
Peut-être quand même un mot, Jérôme, on va pas vous monopoliser trop de temps, sur la campagne des classiques, hein, quand même, qu'on est en train de vivre avec le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, des dates importantes que vous avez eu le plaisir de vivre. Dans quel état d'esprit vous sentez le peloton au moment d'aborder ces deux courses? Et est-ce que vous avez l'impression qu'il y a vraiment un patron qui se dégage, ou est-ce que au contraire vous allez plutôt suivre avec du recul et voir la performance des coureurs français, vous?
Ben, je vais faire les deux, parce que je suis passionné, parce que j'ai vécu ces courses-là et je peux pas, c'est pas vous mentir que j'ai pas un petit pincement au cœur à cette période de l'année. C'est les courses que j'aimais beaucoup faire, en tout cas en fin de saison. En fin de carrière, j'ai beaucoup aimé participer à ces courses-là. C'est des vraies courses, c'est un vrai spectacle. C'est les courses les plus belles de l'année pour moi. Il y a pas vraiment de patron. Il y a deux, trois grands favoris qui se dégagent, des Sagan, des Cancellara, des Christophe qui est en train de s'imposer aux 3 jours de la panne, mais pas un gros favori. Il y a Greg Van Avermaet qui mange très bien aussi. Et puis nos Français avec Arnaud Demare qui peut faire quelque chose aussi. Donc on va voir. C'est clair que j'ai hâte d'y être parce que ça va être un beau spectacle. C'est très ouvert cette année. On n'a pas une domination comme on a pu voir certaines années. On a surtout pas d'équipe qui domine et ça c'est très intéressant. On voit que mes anciens camarades d'éthique sont pas super, ils sont pas dominateurs comme ils ont pu l'être par le passé. Est-ce qu'ils cachent leur jeu peut-être? Est-ce qu'ils ont la flèche pour finir le travail? J'en suis pas sûr. Donc ça va être un beau spectacle et croyez-moi que dimanche prochain et dans 15 jours à Paris-Roubaix, la route va fumer parce que tout le monde va vouloir s'imposer et surtout Cancellara va vouloir finir en beauté. Donc il va y avoir du spectacle. C'est des coureurs de panache et c'est pour ça que c'est intéressant.
Eh bien, on va suivre ça comme vous avec les yeux grands ouverts. Merci Jérôme Pineau en tout cas d'avoir pris du temps pour passer dans Radio Vélo ce soir. Et puis on aura le plaisir du coup de vous écouter, c'est ça, dans les grandes gueules du sport sur RMC et puis à la télé pour beIN Sport. Voilà, on n'a pas fini du coup de vous suivre et on s'en réjouit. Merci Jérôme Pineau, à bientôt dans Radio Vélo.
Merci à vous.
Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir.
Ciao.
Et donc c'était Jérôme Pineau dans Radio Vélo. C'est sympa d'entendre un petit peu Jérôme Pineau. On sent que c'est son truc de parler quand même. Là,
un peu comme Steve Chenel, on sent dans la voix que c'est un véritable passionné.
Plus posé que Steve Chenel.
Plus posé.
Jérôme Pineau. Tiens, quelqu'un de posé. Max est avec nous, il vient d'arriver.
Salut.
Et je crois que t'as fait du vélo vu comment t'es un peu plus rouge qu'avant.
C'est quand tu reprends que t'es tout blanc, tu ramasses. Quand même. J'ai pas roulé en Espagne ou je sais pas où.
Ah non, t'es pas allé sur la montagne d'Afrique du Sud là-bas comme les autres. Mais voilà, c'était Jérôme Pineau. On a lancé cette émission au programme très chargé. On aura un autre Pineau, mais qui s'écrit pas pareil. Celui-là, Benjamin, on en a assez parlé en préparant l'émission. On aura Julien Pineau, l'entraîneur de la FDJ, tout à l'heure, et frère de qui vous savez. Mais là, on continue donc sur ce week-end. Un week-end extrêmement chargé. C'est sûr que les drames ont pris le dessus et comment ça aurait pu en être autrement, tant le monde cycliste et même ceux qui suivent pas forcément le vélo ont eu ces informations et se sont sentis concernés. Mais en parallèle, il y avait aussi donc des courses très importantes, hein, la victoire de Sagan à Gent-Wevelgem qui a forcément été éclipsée assez rapidement. Quintana qui a gagné le Tour de Catalogne, là aussi il y a des choses à dire. Thibaut Pinot qui a gagné le Critérium International, là aussi il y a des choses à dire. On conclut peut-être sur le triste, sur le moment le plus difficile du week-end, vu qu'on a quand même abordé ça longuement avec Jérôme Pinot qui connaît bien ce sujet, que tu complètes bien aussi, Julien, en parlant du cyclisme amateur. Est-ce qu'il peut y avoir une réponse globale à ces... Après, les accidents resteront des accidents, mais en matière de sécurité, peut-il y avoir une réponse globale du monde pro et du monde amateur, ou c'est deux choses différentes?
Non, c'est deux choses différentes. On se bat aujourd'hui. Enfin, une course professionnelle n'a pas le même statut qu'une course amateur. Aujourd'hui, une course amateur, déjà, elle a un arrêté préfectoral qui lui donne droit à une priorité de passage, on va dire, en tant que convoi exceptionnel, donc avec route ouverte à la circulation. Donc dans ce cas-là, voilà, il faut des motards qui soient chevronnés, mais il faut bien que l'organisateur veuille s'acquitter de ce que coûte un groupe de 10 ou 12 ou 15 motos qui soient déjà en performant. Ça coûte de l'argent, déjà, quand on sait ce que coûte une course de vélo, si en plus il faut rajouter ces frais-là, voilà, c'est pas facile d'organiser une course par étape, en ligne ou autre, parce que ça impose financièrement des budgets. Et souvent, voilà, les organisateurs vont aller plutôt se diriger, ben dire, tiens, ben moi, je vais essayer de trouver un groupe de motos, alors payer l'essence pour la journée, prendre des motos, ils vont me faire la sécurité. Mais c'est loin d'être simple. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Le monde de professionnel est différent. Sur des courses comme Gent-Wevelgem, des grandes courses comme ça, des courses comme ASO, où les routes sont privatisées, fermées, c'est autrement. On a toujours des motos, mais qui sont dans notre, qui sont là, comme les motos photographes, beaucoup de... Nous, on n'a pas ça, les courses amateurs, tu n'as pas de moto photographe. Les seules motos qu'ils puissent avoir, c'est les motos sécurité et qui font un travail de dingue tout le temps à garder les carrefours, à redoubler les pelotons. On sait que doubler les pelotons ici, des courses de 3, 4, enfin, vous dépassent, etc. Et sont difficilement, on a du mal à les doubler. C'est pas du tout. Tu peux pas mélanger des courses professionnelles et des courses amateurs. Il y a du travail à faire au niveau course amateur. Il y a de la formation. Il y a beaucoup de formation aussi à faire. Il y a beaucoup de clubs. Il y a des clubs ici à Midi-Pyrénées comme le GME, comme la MAC, et qui font beaucoup de formations. Quand ils reçoivent des nouveaux motards, ils vont les mettre en binôme pour travailler, pour apprendre le métier de motard signaleur. C'est une chose, mais au niveau professionnel, c'est autre chose. Ce sont des motards qui vont être, en plus de, voilà, des motards photographes ou X motards qui seront là, qui vont gêner au déroulement de la course. On est dans deux cas différents, en fait. Donc, faut pas tout mélanger. Il y a beaucoup de travail à faire. C'est vrai, côté amateur, mais côté sécurité. Et là, chez les pros, c'est différent. C'est vrai, quand je vois une photo, comme j'ai vu l'autre jour, où tu vois, tu cherches le coureur, t'as 12 motos sur la photo, tu dis, mais où est le coureur? C'est vrai que, voilà, c'est pas forcément ce qu'il faut montrer, mais. Je pense qu'il faut, voilà, arriver à réglementer tout ça. Jérôme l'a très bien dit, il faut surtout, voilà, s'orienter sur des gens qui connaissent vraiment le milieu du vélo. On sait très bien qu'un peloton qui se déplace, il y a des règles de fonctionnement. Le pilote, apparemment, qui a eu l'incident, c'est un pilote, ça faisait 20 ans qu'il le faisait. Je pense que c'est plutôt, lui, là, un accident plutôt que, voilà, un mauvais acte, comme on a pu voir la voiture qui a doublé ou diverses choses qu'on a vues sur les courses précédentes. Après, il faut pas non plus, voilà, je pense qu'il faut vraiment se mettre autour d'une table, dire, voilà, bon, mais une course de vélo, c'est des coureurs qui, c'est dangereux. Aujourd'hui, les coureurs ont les oreillettes, ils ont les capteurs de puissance, les Garmin, ils sont très pris, ils sont peut-être un peu moins attentionnés, comme je pouvais dire. Et c'est vrai que ça rajoute du facteur, les niveaux sont quand même beaucoup plus homogènes, les courses sont plus difficiles, on le voit, plus difficiles à se dérouler, les coureurs sont peut-être un peu plus, je pense qu'il faut vraiment un petit peu se remettre un petit peu, remettre un petit peu l'église au sein du village.
L'église au sein du village, très belle expression. Autour de la table, pour conclure sur ce sujet, on voulait réagir. Max, Guillaume avait levé la main en premier.
Oui, mais il y a notamment Marc Madiot qui a fait quelques propositions, j'ai vu.
Sur West France.
Ouais, pour rejoindre ce que disait Julien, c'est que les courses sont beaucoup plus difficiles, les niveaux sont beaucoup plus homogènes qu'avant. Et lui-même se demandait s'il fallait peut-être pas réduire le nombre de coureurs en course. Il dit, est-ce que ça vaut le coup de lancer 200 coureurs qui ont un niveau très homogène, tout le monde frotte pour aller devant, et voilà, ça peut provoquer des accidents. Après, comme le disait Julien, là, dans le cas de la moto qui est tombée sur le coureur, bon, c'est vraiment un accident, je pense, que voilà, le pilote, ça fait 20 ans qu'il fait des courses, il transporte un commissaire, mais bon, c'est peut-être
un accident reste un accident. Ouais, il y a énormément de d'accidents tous les jours.
Ce pilote qui fait Gang-Wevelgem, ça fait 20 ans qu'il fait, mais il fait pas que cette course là. Voilà. Il doit faire tous les classiques. Donc c'est un gars qui connaît le vélo, tu peux pas faire autrement quoi.
Et puis bon, c'est la malchance absolue, il était quasiment arrêté la moto tombe.
Je veux dire que voilà, moi ça m'arrive de redoubler le peloton, mais tu peux t'es pas à l'abri que s'il y a un élément mécanique qui casse un coureur qui est derrière, que devant toi, et qui quoi tu veux faire moto, tu vas pas t'arrêter comme avec un vélo quoi. C'est un accident qui est très regrettable, c'est certain.
Et heureusement, ils sont rares ces accidents. Heureusement, finalement, quand on voit le nombre de courses qu'il y a, les accidents en restent très, très, très rares, bien évidemment, mais sont dramatiques, Max.
Bah, c'est surtout, enfin, moi, mon avis, c'est que c'est une série. Ils disent pas, là, on est sur une série noire. Donc, du coup, on en parle. Ça serait espacé sur 4-5 mois, les accidents, on n'en parlerait pas.
Oui, voilà. Bien sûr.
Donc aujourd'hui, il y a une série, on en parle, on dit si cela, ça, il y en a qui vont faire des articles, il y en a qui vont dire ceci. La Fédé, ils vont pas faire une réunion de crise. Et le problème est là, c'est si tout le monde se met, on fait une grève, les coureurs font une grève, les organisateurs de course font une grève, etc. Là, ça va bouger les choses. Mais là, c'est parce que c'est une série, donc ils vont laisser passer l'orage. Et puis les photographes, il y a tellement de retombées, il y a tellement de tous les médias qu'il y a derrière. Autour de France, s'il n'y a pas d'accident, ça sera passé nickel. Voilà, s'il y a un autre accident autour de France, ouais, là, ça va parler. C'est ça qui est malheureux.
Moi, pour l'avoir fait le tour, c'est vrai qu'il y a un très gros travail des régulateurs. Un certain Cédric Coutouli là, qui est régulateur, qui fait un travail remarquable comme les autres. C'est vrai qu'il manie ça un petit peu à la baguette pour justement réguler le flot de motos, parce que c'est impressionnant. Et c'est vrai que heureusement qu'il y a des gens comme ça qui connaissent, qui sont des anciens professionnels, qui connaissent vraiment leur fonction. Et ça permet de limiter, mais voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de véhicules qui suivent. Et
avec tous les coureurs qu'il y a, que ce soit pro ou amateur, surtout pro, qui ont arrêté leur carrière, qui font autre chose maintenant, voire rien, il y a de la place pour les mettre dans tous les véhicules de course.
Oui, mais Max, tu sais comment c'est, les organisateurs, ils vont vouloir faire plaisir à Pierre-Paul Jacques aujourd'hui, et malheureusement, comme il n'y a pas de règles. Voilà, s'il y avait une règle, aujourd'hui, la SO dit qu'à partir de 60 ans, tu peux plus conduire de voiture. La règle, elle est comme ça. Donc, voilà, si tu as de la rigueur, tu as du résultat. Si t'as pas de la rigueur, t'as pas de résultat. Tu vas, voilà, t'as les courses, tu les vois. Tu vois bien qu'il y a des gens, en niveau amateur, ils sont directeurs sportifs, mais ils ont rarement roulé dans un peloton, ou dans une file de directeurs sportifs. Tu peux pas laisser des choses comme ça. Et voilà, suivre une course de vélo en tant que directeur sportif, tu le vois toi, ça s'improvise pas, quoi. Il faut l'apprendre, il faut, et bien c'est pareil pour les pilotes de véhicules d'invités, de motos, etc. C'est pareil.
Bon, on va clôturer. Benjamin, tu voulais rajouter quelque chose? Non, rien de plus en tout cas. Voilà, pour ce sujet-là, on va parler bien évidemment de...
C'est ta radio. Pop. Rock. Sport.
Votez toute la semaine sur cetaradio.fr pour faire évoluer le top.
L'amour est une descente à vélo, un tour de France, un gros joint. Quand on sent l'air au travers du maillot, en roue libre et bien sûr sans les freins. Carla retourne, Carla retourne, retourne là.
De retour dans Radio Vélo, la seconde partie de l'émission. Et pour continuer bien sur l'actualité du week-end, nous avons un nouvel invité, Guillaume.
Oui, on a un nouvel invité, Julien Pinault. Julien, tu nous entends ?
Oui, très bien. Bonsoir à tous.
Bonsoir. Déjà, merci de nous accorder un peu de temps, parce que je suppose que ton temps est très précieux. Déjà, je vais te laisser te présenter, parce que Nicolas, tout à l'heure, a parlé d'entraîneur, mais tu n'es pas le seul entraîneur au sein de la FDJ. Donc, est-ce que tu peux un peu nous présenter, vite fait, la structure FDJ actuellement ?
Donc oui, ma fonction numéro un, elle est celle d'entraîneur. Après, en fait, au sein de la FDJ, donc il y a un pôle performance qui a été créé il y a environ 2-3 ans par Frédéric Grapp. Et au sein de ce pôle performance, on est donc trois entraîneurs avec Sébastien Jolib, donc l'ancien coureur professionnel, et David An, à s'occuper donc des 30 coureurs de l'équipe. Donc on a chacun un groupe de 10 coureurs à gérer et à suivre donc au quotidien leur entraînement, leur préparation pour répondre aux objectifs fixés par la direction sportive. Et à côté de ça, j'ai aussi des missions au niveau du développement de tous les produits et de tous les équipements qu'on utilise. Donc on travaille beaucoup avec tous nos partenaires techniques, et je fais un petit peu le lien au niveau de tout ce qui est recherche et développement des produits, donc avec Sébastien Joly également.
D'accord. Et apparemment, vu les résultats depuis le début de l'année, ça a l'air de particulièrement bien fonctionner. On a notamment vu d'énormes progrès sur les contre-la-montre. Est-ce que c'est uniquement dû aux nouveaux vélos fournis par Lapierre ou c'est vous avez travaillé spécifiquement le contre-la-montre cet hiver?
Non, ça serait quand même réducteur de dire que c'est uniquement le vélo qui procure tous ces avantages. Non, c'est un travail qui a été mené déjà depuis 4 ans dans l'équipe où donc on a commencé à travailler avec les partenaires et principalement Lapierre, notre fournisseur de cadres. Et petit à petit, donc on a essayé de développer vraiment toute l'interface machine, donc aussi bien l'athlète. C'est vrai que cette saison, on commence aussi à bien connaître nos athlètes et on arrive à les. Cette année, on se rend compte que vraiment tout notre groupe de coureurs est vraiment performant depuis le début de saison. Et en parallèle également, on a sorti là un nouveau vélo de contre-la-montre, mais l'an passé, on avait sorti également un nouveau vélo de route plus traditionnel qui est encore très performant. Après, voilà, il y a le cadre, il y a aussi un nouveau partenaire Boyau que nous avons également eu. Il y a tout au niveau du contre-la-montre, il y a aussi tout ce qui se passe au niveau de l'aéro, du casque et de la combinaison. Donc en fait, on essaye un petit peu de contrôler tous les éléments. Mais avant tout, évidemment, c'est quand même le potentiel de l'athlète qui prime. Et à ce niveau-là, c'est sûr que depuis 3-4 ans, il y a un gros travail qui a été mis en place au niveau de l'entraînement, du chrono individuel, mais également du chrono par équipe.
Bonsoir Julien et Nicolas de Radio Vélo. Peut-être une question mais sur l'ensemble de ces résultats du début de saison. C'est vrai que pour l'instant, c'est le coup de le dire, tout roule pour l'équipe FDJ. Est-ce que vraiment vous pouviez espérer de tels résultats dans l'intersaison, avant le début de ces courses que vous avez remportées? Principalement, c'est vrai qu'il y a une belle victoire sur Milan-San Remo, le critérium international, on sait que vous le visiez probablement. Également, les belles performances sur les courses du sud-est de la France en début de saison. Est-ce que au début de saison, vous étiez du genre, Julien, à vous dire, on pourrait arriver à faire des trucs encore mieux que d'habitude?
Disons qu'en fait, c'est le raisonnement là, il a surtout eu lieu il y a un an en fait, donc il y a eu ce tournant qui a été pris au niveau du pôle performance et d'axer l'équipe vraiment autour de trois leaders, qui sont Thibaut, Arnaud Demar et Arthur Vichot. Donc c'est l'objectif il y a un an, voilà, fixé, c'était ça, c'était de répondre présent au grand rendez-vous. Donc on sortait d'une saison où on avait également il y a 2 ans Nasser, on avait eu un grand nombre de victoires, plus de 30 victoires dans l'année. Du coup, l'année suivante, on s'est dit, on repart uniquement sur 3 leaders, sur 3 fronts différents, et on essaye d'apporter de la qualité plutôt qu'un nombre de victoires important. Et c'est vrai que l'an passé, pour différentes raisons, on n'a pas eu avec tous les coureurs les résultats escomptés. Par contre, c'est vrai que cette année, on s'est servi un petit peu des erreurs qu'on a commis, notamment dans la préparation de la saison 2015, pour essayer de faire mieux. De créer une nouvelle dynamique dans l'équipe, une dynamique positive, et on voit que ça porte ses fruits, et comme vous le remarquez, ça marche un petit peu sur tous les fronts, puisque là, aujourd'hui, on a 9 victoires, à part le chrono par équipe du Tour Med, les 8 autres, c'est uniquement nos 3 grands leaders qui les ont obtenus, donc c'est que la philosophie de l'équipe et la stratégie qui est mise en place par le staff, elle est, je pense qu'elle est bonne et elle est cohérente, puisque comme vous le souvenez, Milan-San Remo, c'est un des 5 monuments. Le critérium international, c'est également une épreuve de prestige. Et on a également une étape sur Paris-Nice. Arthur qui a gagné le Houvard. Donc, c'est des victoires de très grande qualité. Ouais.
Benjamin, une question pour Julien.
Oui, bonsoir Julien. C'était tout simplement pour savoir quels étaient les 10 coureurs dont tu t'occupais.
Du coup, moi, je m'occupe en grande partie des grimpeurs. Évidemment, je fais le suivi de l'entraînement de Thibaut, mais également donc il y a également Kenny Ellison, de lui je le suis depuis ses années études, donc ça va, c'est la 6e année qu'on travaille ensemble. Je travaillais aussi avec Alexandre Geniez, Sébastien Reichenbach, donc qui arrive cette année, qui est également grimpeur. Après, en dehors de ce groupe-là, je travaillais aussi avec Jérémy Roy, Anthony Roux, donc qui sont plutôt les rouleurs, allez, un peu les capitaines de l'équipe. J'ai également Cédric Pinault, donc lui qui est plus dans un rôle d'équipier. Et après, j'ai également Arthur Vichot et Arnaud Demar. Donc voilà les 10 coureurs que j'entraîne. Non, j'oublie un, c'est Steve Morabito, qui lui est un entraîneur depuis plusieurs années, Et en fait, donc, je suis son référent dans l'équipe, mais lui a gardé l'entraîneur qu'il a déjà depuis de nombreuses années. Tout se passe bien avec son entraîneur, donc il n'y a pas de raison de casser un modèle qui fonctionne. Et en fait, je suis là pour assurer le suivi et que l'équipe sache exactement ce qu'il fait et comment il se prépare.
D'accord. Et
donc j'ai responsabilité, ouais, au niveau de l'entraînement.
Ok, on sait que Kenny Ellison a été blessé en début de saison. Comment il est actuellement?
Ouais. Ben là, ça va mieux. En fait, il a eu un petit problème. Il a ressenti des petites gênes au genou début janvier. Et en fait, pendant 2-3 semaines, ça a fait qu'empirer. Il y a eu une intervention chirurgicale qui a eu lieu. Derrière, il y a eu des petites complications. Il a voulu reprendre à peine trop tôt et du coup il y a eu des complications et si bien qu'il est remonté sur le vélo que fin février. Il a fait 3 semaines en centre de rééducation à Boulouris, là à côté de Saint-Raphaël, et depuis 2 semaines et demie il s'entraîne, il peut s'entraîner correctement, effectuer de grosses charges de travail, donc sa reprise normalement elle risque d'être prévue sur le Tour du Finistère, je crois.
D'accord.
Dans 2 semaines et demie. C'est sûr que du coup, à la base en début d'année, il avait pour objectif d'être opérationnel et performant sur le Giro. Là, ça risque d'être short. Ça décale quand même beaucoup sa saison.
Justement, si pas de Kenny Ellison sur le Giro, il y a un autre coureur qu'on suit souvent dans Radio Vélo, vu que nous sommes dans le sud-ouest de la France, c'est Alexandre Géniez, qu'on a le plaisir de recevoir de temps en temps. Justement, est-ce que le programme d'Alexandre va être un petit peu le même que l'an dernier, avec une possible participation au Giro, ou c'est un peu différent cette année?
Non, lui, son gros objectif, donc sa saison était un petit peu... la première partie de saison était découpée en deux. En fait, il y a eu une première partie de saison qui s'est achevée ce week-end au Critérium International, où il avait pour rôle un petit peu d'épauler au mieux Thibaut sur les gros objectifs qui étaient le Tirreno Adriatico et le Critérium International. Donc, il a parfaitement rempli ses missions-là et maintenant, il bascule dans la préparation du Giro, où là, il aura le rôle de leader pour le classement général dans l'équipe. Et donc, à partir de là, c'est sûr que c'est dommage, puisque Kenny risque d'y manquer, parce que l'an passé, plusieurs fois dans l'école, ils s'étaient retrouvés ensemble, notamment en dernière semaine, et Kenny avait filé un bon coup de main, justement, pour aller chercher ce beau top 10. Donc là, évidemment, l'objectif, il est au moins de faire aussi bien pour Alex. Mais il aura une équipe performante et le parcours est aussi différent. Il y a plus de contre-la-montre, il y aura les pièges des Pays-Bas à éviter. Donc, pour Alex, ça reste pareil. C'est priorité sur le Giro et éventuellement, derrière, il postule sur le Tour de France pour accompagner Thibaut.
D'accord, et justement, quand on voit que ça marche bien là, ce début de saison, c'est vrai, quand on gagne Milan Sanremo dans une équipe, déjà, il y a une bonne partie du contrat qui est rempli pour la saison. Dans quel état d'esprit on peut se trouver à ce moment-là de la saison, d'un point de vue global? Est-ce qu'on se dit que maintenant il va falloir franchir un cap sur d'autres types de courses? On pense notamment aux courses par étapes, en franchissant le plus beau des caps, ou est-ce qu'on se dit que on va continuer à faire du très bon boulot et à s'instaurer dans la durée pour que ces résultats puissent revenir sur plusieurs années?
Un petit peu les deux, hein. C'est vrai que nos trois leaders sont ambitieux, donc je pense à Arnaud, certes il a gagné Milan, mais pour lui sa campagne des classiques s'arrêtait pas à cette victoire-là, il a vite basculé, il fait cinquième à Gand ce week-end, et là il est très 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 concentré et concerné par le Tour des Flandres et Paris-Roubaix qui arrive, c'est vraiment des épreuves qui le font rêver, donc lui, Milan Sanremo ça lui suffit pas, il en veut d'autres. Après, de l'autre côté, évidemment, il y a Thibaut. C'est vrai que Tirreno, il a fait cinquième général. C'était son premier gros objectif de l'année. Cinquième sans une étape de montagne. Donc, c'est positif. Mais c'est sûr que s'il y avait eu l'étape qui a dû être annulée, je pense qu'il y aurait eu une belle bataille avec Nibali, justement, pour la victoire au classement général. Donc, c'est un petit peu la frustration. Il l'a éliminé ce week-end en gagnant au total du coup 3 victoires. C'est sûr que ça fait beaucoup de bien au moral. Maintenant, il va sur le Tour de Pays Basque, mais son prochain gros objectif, ça va être le Tour de Romandie, où là-bas aussi, il y aura 2 contre-la-montre et 2 arrivées au sommet. Donc, c'est vraiment un parcours qui lui correspond vraiment et sur lequel il aura vraiment des ambitions de victoire. Ouais.
Max, peut-être une dernière question pour Julien.
Oui, bonjour. Moi, c'est plus une question sur par rapport au Tour de France. Combien de stages peut être prévu à cette époque-ci
Est-ce qu'il y a un ou deux stages pour reconnaître les parcours? Comment ça se passe en fait?
Bah, on a déjà essayé plus différentes choses dans l'équipe. Au début, il y a 2-3 ans, on faisait uniquement un stage dans un endroit à la montagne et en gros, on s'entraînait en montagne. Deux fois, on a fait des stages itinérants et en fait, on repérait tous les massifs. Donc, c'était le cas en 2013 et 2015. Et en fait, les deux fois, on partait 10 jours avec un petit noyau autour de Thibaut et on effectuait toutes les étapes de montagne. Thibaut un petit peu superstitieux et c'est vrai que les deux fois finalement pour classement général ça s'est pas hyper bien passé. C'est vrai que de partir des jours comme ça en itinérance, on y laisse aussi beaucoup d'énergie. Du coup cette année on va procéder un petit peu différemment, plus dans l'esprit que de ce qu'on avait fait en 2014, c'est-à-dire qu'il va plus essayer de placer un cycle de travail en altitude, donc une moitié dans les Alpes à Tignes où il a un lieu de résidence. Et avec l'équipe, on fera uniquement un petit rassemblement de 5 jours en Andorre. On repérera quelques étapes des Pyrénées. Pour le reste, lui effectuera moins de recos. Par contre, nous, le staff, on en fera beaucoup plus, quoi. Donc, on a essayé de concilier à la fois la nécessité de faire des recos, mais pas uniquement de laisser en mai énormément d'énergie à effectuer ces recos. De plus, Thibaut va opter pour le critérium du Dauphiné. On va connaître le parcours demain, mais normalement, si c'est dans le même esprit que les années précédentes, il y a également des étapes du Dauphiné qui sont sur des parcours du Tour. Donc ça permet aussi de réaliser des reconnaissances en situation de course, quoi.
Ouais, changement de programme donc à l'approche du Tour de France pour Thibaut, ça promet en tout cas de belles choses. On va vous remercier Julien Pinault d'être passé dans Radio Vélo et puis
avec plaisir.
Comment on fait quand on est du coup l'entraîneur comme ça de plusieurs coureurs, on est souvent sur place sur les courses ou on partage son temps un petit peu entre une vision d'ensemble peut-être à la maison et une présence sur les courses?
Les deux hein. Je pense que c'est certes il y a la difficulté dans le vélo qu'on a, c'est évidemment que les coureurs ils sont un petit peu répartis sur tout le territoire, donc c'est pas évident. Hein. Si on les avait tous sous la main comme dans un club de foot, ce serait idéal. Donc c'est beaucoup de travail de suivi, d'appels téléphoniques. On a une plateforme qui centralise tout. Mais après, moi le côté terrain me plaît beaucoup et c'est la raison pour laquelle, en plus des stages, je me déplace beaucoup sur les courses parce que c'est là aussi où on côtoie vraiment les athlètes et c'est là où ils s'expriment et c'est là qu'on apprend à les connaître aussi. Voilà, je suis un entraîneur qui travaille beaucoup à domicile. On a pas mal de stages, mais je joue aussi pas mal sur les compétitions. Donc, j'étais sur Tirreno, j'étais au Critérium, et là, je vais aller sur Pays Basque, Paris-Roubaix. Donc, je pense que c'est important de se déplacer sur les courses pour voir les coureurs dans leur domaine où ils s'expriment pleinement. Ouais. Pas uniquement l'entraînement, mais par téléphone, quoi.
Bon, eh bien, merci Julien Pinault d'être passé dans Radio Vélo et à très bientôt.
Merci à vous.
Merci.
Au revoir, bonne
soirée. Et donc c'était Julien Pinault dans Radio Vélo, l'entraîneur de l'équipe FDJ qui nous a dit donc demain la présentation du Dauphiné qui est très attendu, pas la reconnaissance si, moi j'ai pas tout. En tout cas, l'info, c'est qu'il va passer, sur une autre approche du Tour de France en venant donc sur les courses françaises plutôt que le Tour de Suisse. Toi, tu préfères les courses françaises, Max, de toute façon.
Oui, bon, après, il faut aller voir aussi un peu partout, hein. Mais non, moi, ce que j'ai noté, qu'il a dit très vite fait, et que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui va attention à ça, il a bien précisé qu'il y avait une plateforme téléphonique pour tout gérer.
Ouais, j'étais impressionné.
C'est là où on se rend compte. Mais je pense qu'on se rend compte qu'il y a vraiment quelque chose. Alors,
moi, c'est énorme. J'étais au courant, vous savez que je connais un peu.
Ils s'envoient tout par Minitel, c'est super moderne.
Non, mais c'est vrai qu'ils ils sont obligés de tout centraliser pour tout ce qui est entraînement.
On n'imagine pas tous les gens qu'il y a derrière pour gérer tout ça.
Logistique pour les billets d'avion, parce qu'on se rend pas compte aussi.
Gérer toute la logistique.
Voilà, faut que les coureurs puissent arriver tous en même temps sur une course.
Et comme il dit, de ce que j'ai pu comprendre, pour le staff ou le Tour de France, des choses comme ça. Des fois, ils y vont eux reconnaître les étapes sans les coureurs. Et ça, c'est pareil. Le staff doit aussi aller voir.
Ça me fait penser un peu à la Sky, cette approche de plus en plus millimètre.
Il faut. À un moment donné, t'as pas le choix, si tu veux. Ouais. Et là, c'est ce qu'ils. Ça fait 4 ans que tu travailles ça.
Mais ça paye. Hein. Tu vois, en 2010 ou 2011, quand la Sky est arrivée dans le vélo, ils parlaient de révolutionner. Ils se sont ratés. On s'est moqué d'eux, moi le premier. Ah, et ensuite, on a vu à partir de 2012 qu'ils sont tout écrasés. Et la FDJ, ils disaient que c'était à partir de l'an dernier qu'ils avaient commencé. En 2015, ils ont quand même eu pas mal de ratés, hormis Thibaut Pinot qui leur a vraiment sauvé la saison. Et là, on commence à voir les bénéfices du travail d'il y a un an, où là, ça commence à marcher. Et avec cette spirale positive, ben ça monte, quoi. Hein. Donc, en plus, ça va donner envie aux coureurs de rejoindre l'équipe. Donc, s'ils veulent recruter, ça va être sans doute plus facile, parce que forcément, on préfère aller dans une équipe qui marche qu'une équipe qui est en galère. Et c'est bien parti, quoi.
Ouais, c'est vrai que c'est très très long à mettre en place, mine de rien, une structure qui arrive à bien fonctionner. Là, j'ai interviewé Sébastien Joly, donc qui fait partie du staff récemment, et c'est vrai que c'est assez impressionnant de ce qu'ils mettent en place depuis quelques années, depuis l'arrivée de Fred Grapp. Et voilà, ça porte ses fruits. Maintenant, ils font un noyau autour de Thibaut Pinot, et on voit qu'apparemment cette année ça fonctionne très très bien.
Et il fallait au moins ça pour répondre à G2R dans le match entre les meilleures équipes de France, vu qu'à G2R a eu des super résultats sur le tour. Mais la FDJ et la G2R sont vraiment
les. En 2016, il n'y a pas photo.
C'est vrai que la G2R n'a pas pris un virage classique. Hein, sur les classiques, ils n'ont pas vraiment de gros clients, sans faire offense à personne. Le renouvellement des fois il prend un petit peu de temps, mais il va y avoir des très belles choses avec les Bardets et autres consorts. Tiens, on parlait du Tour de France auquel participera Thibaut Pinot, son grand objectif de la saison, et justement le Tour de France, eh bien dans les villes de Midi-Pyrénées, c'est la minute Midi-Vélo, le comité régional Midi-Pyrénées, le Tour de France, les villes qui vont l'accueillir comptent les jours, hein. On sait qu'aujourd'hui Montauban a organisé une petite fête avec les enfants, et Mélanie, c'est également le cas du côté de l'île Jourdain, c'est J-100, c'est ça?
Oui, voilà, c'est ça, la mairie du Jourdain aujourd'hui a organisé un petit événement pour le J-100 comme Montauban, et donc on a Romane Télesforo, la chargée de com de la mairie, qui va nous parler de l'événement d'aujourd'hui, mais aussi de tout le dispositif qu'ils ont mis en place avant le tour et ce qui est prévu pendant cette journée.
Bonsoir
Romane.
Romane, pardon. Bonsoir Romane, est-ce que vous nous entendez?
Oui, je vous entends très bien.
Bienvenue en direct à Radio Vélo. Première question, c'est une question de géographie pour nos auditeurs. L'île Jourdain, sur la carte, c'est dans le Gers, c'est ça?
Voilà, tout à fait. On est la deuxième plus grande commune du Gers après Auch. Et donc voilà, on est situé dans le département du Gers et on fait partie de la communauté de communes de la Gascogne toulousaine.
Gascogne toulousaine, et du coup, événement, peut-être le nombre d'habitants de cette commune, l'île Jourdain.
On est à un peu plus de 8000 habitants.
8000 habitants, et donc un départ d'une étape du Tour de France, c'est tout simplement exceptionnel. On sait que la pression montait, notamment depuis quelques années avec la Route du Sud, et puis ensuite, il y a eu, je me souviens très bien d'avoir rencontré l'un des maires adjoints à la présentation du Tour de France au mois d'octobre. C'était les yeux grands écarquillés qu'il assistait à la présentation de la carte, oui, parce que l'île Jourdain, du coup, est sur la carte, et ça, c'est forcément symbolique de l'intérieur. Comment on le ressent? Les habitants vraiment sont tous concernés par cet événement?
Alors oui, parce qu'à l'île Jourdain, on a une politique vélo qui est menée depuis quelques années. Alors c'est une politique qui est menée pas forcément en mairie, ça y vient petit à petit, mais qui était surtout menée par des entreprises présentes sur le territoire. Je pense notamment à Cyclelab, à Culture Vélo, etc. Puisqu'on a le fondateur de Culture Vélo, M. Denis Briscadieu, qui est lillois. Et qui est basé donc à l'île Jourdain, et c'est lui qui s'est battu pour avoir l'arrivée du tour à l'île Jourdain, et bien sûr après a été relié par les politiques de la ville. Voilà.
Oui, bonsoir Julien. On sait que l'île Jourdain, c'est une terre de vélo depuis longtemps. Il y a toujours le vélodrome, il y avait un club de l'île Jourdain. Il y a toujours eu des réunions sur piste qui se sont déroulées. Il y a eu des courses qui se sont déroulées il y a très très longtemps. C'est vrai qu'on connaît, on sait la passion qu'a l'île Jourdain pour le vélo. Et c'est vrai que après le passage au Route du Sud, maintenant l'arrivée du Tour, ça va être un grand événement pour cette ville.
Tout à fait, c'est l'aboutissement de pas mal d'années de travail et de passion.
Comment ça se passe là? Donc du coup, on est à 100 jours de l'événement. Quelle est la tâche journalière justement à 100 jours de cet événement?
Alors la tâche journalière, on est actuellement, donc nous pour travailler sur le Tour de France, on s'est divisé en commissions, avec la mairie, au niveau des partenaires, etc. Donc on a une commission communication, une animation, une sécurité et une finance. Donc on a tout l'aspect sécuritaire qui a été bien sûr réglé avec avec ASO, l'organisateur du tour. Et là, on est actuellement en train de peaufiner des détails pour tout ce qui est animation et communication. Et donc notamment aujourd'hui où on était on est officiellement à J-100 du passage du tour. Donc pour l'événement d'aujourd'hui, on a organisé aussi un petit événement à la mairie de Livourdin avec tous les partenaires et financiers et privés qui nous aident à mener ce projet à bien. Et donc on a inauguré une bâche qui représente la venue du tour à Lille. Voilà, après pour ce qui est de l'organisation, c'est du travail à plein temps pour environ 3 personnes, on va dire, ce qui est quand même beaucoup sur une petite commune et une petite collectivité. Voilà, après je peux vous parler des animations du jour J, tout ça, on a beaucoup de choses qui sont prévues. En termes d'animation vélo, on a un Rollapalooza, on a vraiment beaucoup de choses, je vais pas trop vous en dire parce qu'on souhaite garder quelques éléments de surprise pour le jour J quand même. Voilà, tout se met en place petit à petit.
Max.
Oui, bonjour. Est-ce qu'on pourrait avoir une idée sur l'arrivée à Lyon-Jourdain? Est-ce que c'est une grande route, une ligne droite? Est-ce qu'il y a des virages?
C'est un départ.
C'est un départ. J'ai entendu l'arrivée du Tour de France, donc c'est pour ça que je me suis dit l'arrivée, oui. Oui, mais du coup,
peut-être préciser à quel endroit ce sera, Roman.
Est-ce que le premier kilomètre...
Alors, au niveau de la commune,
oui.
Ce sera donc en bas d'une esplanade, c'est vraiment au centre-ville de Lyon-Jourdain. Et ensuite, ils partent sur la route qui va vers Saint-Matan pour aller jusqu'à l'étape suivante, jusqu'au lac de Payolle. Du coup, au début, c'est plutôt des routes de campagne. C'est plutôt des lignes droites, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et après, ils arriveront sur le passage un peu plus montagneux des Pyrénées jusqu'à Payolle.
Ouais, donc un très 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 beau programme. C'est alléchant. Mélanie, tu as une autre question pour
Roman? Oui, Roman, est-ce que tu peux nous parler des deux événements que vous avez prévus en fait d'organiser avant le tour, parce que enfin...
Tout à fait. Oui, donc si vous voulez découvrir l'étape que feront les coureurs le 8 juillet, on organise l'étape en direct en fait au départ de Lyon-Jourdain. Donc ce sera le dimanche ou le lundi, je ne sais plus quel jour c'est, le 16 mai. On organise l'étape donc à départ de Lyon-Jourdain jusqu'à Payolle. Évidemment, on se doute qu'on n'est pas tous au niveau des coureurs, donc on a mis plein de choses en place, des bus, etc., pour récupérer les personnes qui pourraient pas aller jusqu'à Payolle en vélo. Et voilà, les inscriptions se font au niveau de Monsieur Jean-Pascal Coste. Voilà, je pourrais vous communiquer toutes les informations nécessaires.
Bon, mais ça promet un très très beau programme autour de la table. D'autres questions?
Oui,
c'est bon.
Il y a aussi la fête du vélo qui est vers le mois de juin, c'est ça?
C'est tous les mercredis soirs dans Radio Vélo, la fête du vélo.
Oui.
Oui, deuxième gros événement, donc oui, tout à fait, c'est la fête du vélo qui est début juin. Et on clôture la fête du vélo par la fête du tour cette année. Donc il se tiendra le 4 et 5 juin. Plutôt, on commence, excusez-moi, la fête du vélo avec la fête du tour. Et qui se tiendra le 4 et 5 juin. Donc, sur ce week-end-là, il y a beaucoup de choses qui sont prévues. Notamment, je crois qu'il y a un triathlon, il y a pas mal de choses. On est en train de fixer le programme. Et ensuite, il y aura un stand dédié au Tour de France avec d'ailleurs la participation du comité Midi-Pyrénées Cyclisme sur ce stand-là. Voilà.
On prête le simulateur.
Bon, mais très, très beau programme. On remercie Roman, donc la chargée de com de la mairie de Lyon-Jourdain, dans le Gers, bien évidemment, pas loin de Radio Vélo, pour ce petit coucou. Mélanie, on était complet. On peut remercier notre invitée.
Oui, oui, elle était complète.
Ouais. Et on lui dit à très bientôt, de pas 8. Hésiter à. Et puis, de toute façon, au 8 juillet, dans 100 jours, ça va arriver très vite. Bon courage, pour toute l'organisation, Roman.
Merci beaucoup.
Merci. À bientôt dans Radio Vélo. C'était notre troisième invité aujourd'hui. On a eu beaucoup de pinots, mais on a eu aussi Roman, la chargée de com de Lyon-Jourdain. Max, tu connais bien Lyon-Jourdain.
Ouais, mais tu sais que la route, le départ, longue ligne droite, là, s'il y a un bon vent d'OTAN, mais bien oui, comme il faut ce jour-là,
il y aura les échappées
à 80-90.
Bordure.
Franchement, c'est il y a au moins 20 bornes de bout droit là.
Ah, puis c'est pas tout plat, mine de rien, le Gers. Hein, avant d'arriver à Payolle.
Avant la chronique Matos Vélo, non, on enchaîne avec Matos Vélo, on fera le reste après, vas-y. Je sais que t'as le jingle sous le coude, Julien, je vais pas te retarder. Non, non, mais... Te retarder, non, je voulais être complet sur les résultats, peut-être à Midi-Pyrénées, pas les résultats, le clin d'œil quand même au Grand Prix de Saint-Gabel où tu étais ce week-end. On en parlera juste après avec les petits pronos aussi, Tour des Flandres. Mais Matos Vélo, parce que Guillaume, il s'habille en pneu maintenant de toute façon. Retour de la chronique Matos, notre ami Guillaume de Matos Vélo, que vous retrouvez bien évidemment sur les réseaux sociaux, sur sa newsletter, sur son site, partout, même sur des reportages. Quoi de neuf, Guillaume?
Ouais, j'ai du retard à rattraper, ça fait longtemps que j'étais pas venu, j'ai même plus le temps de me raser.
Du coup, il est arrivé avec le carton, t'as vu?
Ouais, le carton.
Ouais. Ouais, donc, ben, pas mal de news depuis, ouais, ça fait un mois, je crois, que je suis pas venu, donc.
Ah ouais, quand même. Ouais, depuis. Et tu vas rien avoir à Mars, hein, te paiera pas, rien du tout, ouais.
Tant pis. Bon. Donc depuis Paris-Nice, alors ce qu'on a pu voir, moi ce que j'ai pu voir sur quelques sites, Trek qui va sans doute présenter très prochainement un nouveau domaine, donc un vélo destiné aux Flandriennes, etc., qu'utilise apparemment déjà Fabian Cancellara, même s'ils essaient de le cacher un peu, mais pas totalement, qui aurait l'ISOSpeed, c'est leur système qui amortit un peu, avant il était à l'arrière et apparemment il l'aurait aussi à l'avant cette fois-ci. Donc pour l'instant pas plus de détails, mais
ça a l'air de bien marcher vu comme il avance. Cas,
ouais, je pense que
je me retiens de faire la blague, mais
on va éviter. Ensuite, le 4 de puissance Shimano dont j'en avais déjà parlé, j'ai pu le voir sur Paris-Nice. Par contre, les infos, j'en ai pas plus, donc j'ai juste des photos en plus. Chez FDJ, on parle pas. Parce qu'on n'a pas le droit de parler. Donc voilà, Shimano fera une présentation, enfin une annonce officielle très prochainement. Mais pour l'instant,
bon,
voilà.
Au niveau esthétique, qu'est-ce que tu as eu de
Red Bull? Au niveau esthétique, voilà, on voit sur le pédalier, il y a un tout petit, c'est ce qu'on appelle un pod, mais vraiment minuscule à l'intérieur des branches, qui apparemment sert juste, en fait, à transmettre les informations.
D'accord, là, ça compteur. Serait vraiment intégré dans la...
Alors apparemment, d'après ce que je comprends, ça serait vraiment intégré dans les manivelles, les jauges, donc voilà, quelque chose de très esthétique, et je pense que ça sera très très fiable, parce que Shimano, voilà, ils ont quand même une puissance de frappe assez énorme, et puis ils travaillent avec Fred Grapp et Julien Pinot depuis un petit moment dessus, et puis c'est des gens qui veulent des choses très très fiables, donc là il y a de plus en plus de coureurs qui l'utilisent. Donc voilà, je pense que Shimano va frapper très fort dans le monde des capteurs de puissance d'ici la fin de l'année. Toujours sur les capteurs de puissance, il y a Rotor qui a présenté le Two in Power. C'est un capteur de puissance. Jusqu'à présent, ils en avaient un qui mesurait que sur une jambe. Et là, c'est un capteur de puissance qui mesure sur deux jambes. Donc,
Ah oui, Nico, parce que tu pédales avec les deux jambes, tu sais.
Voilà.
Oui, bien sûr.
Donc c'est un capteur de puissance qui débuterait à 1 499 €. Donc on va dire dans le monde des capteurs de puissance qui est assez abordable. Après, j'en sais pas plus au niveau de la fiabilité, de la précision, mais voilà, ça reste assez abordable entre guillemets. Et Mavic qui a présenté récemment, c'est lors de la fin du Paris-Nice, deux nouvelles roues 100% carbone, donc à pneus et à boyaux. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est à pneus. Jusqu'à présent, eux, pour des roues carbone à pneus, pour éviter en fait les problèmes inhérents au freinage, au surchauffe, etc., ils avaient mis un insert en alu. Et là, ils ont réussi à faire une jante 100% de carbone sans insert alu qui résiste vraiment à la surchauffe, etc. Donc, c'est les Xerium Pro Carbone SL et Cosmic Pro Carbone SL. Donc, c'est des roues quand même assez onéreuses, on va dire 2 000 €.
Avec rayon carbone
Non, pas rayon carbone, il me semble, mais quand même assez légère, parce que pour des roues à pneus, 1 390 g et 1 450 g. Donc, voilà, pour des roues à profil haut. Et j'ai croisé des journalistes, justement, à la présentation Michelin, qui ont pu essayer sur la descente de la Madone, etc. Et ils étaient impressionnés par la puissance de freinage offerte par ces roues, apparemment équivalente à des roues alu. Donc voilà, de très bonnes roues en perspective. Campagnolo, qui n'avait pas présenté de nouveautés depuis un petit moment, qui a présenté un nouveau groupe, alors le Potenza, c'est un tout nouveau nom, qui en fait remplace l'Athena, donc il se situe juste sous le Corus. Donc, qui garde les spécificités techniques des Corus Super Record, mais sauf qu'au lieu d'utiliser du carbone, du titane, c'est de l'acier et de l'alu. Donc voilà, c'est un groupe au niveau esthétique qui ressemble beaucoup à ses grands frères, mais en plus accessible.
En mécanique ou en...
Uniquement en mécanique pour l'instant.
D'accord. Parce qu'on les voit beaucoup rentrer quand même, Kampa, par rapport au reste du marché. On les voit beaucoup en rentrer.
Ouais, ouais, c'est vrai qu'ils sont beaucoup moins présents, ce qu'on appelle dans le jargon en OEM, c'est-à-dire en première monte. Mais apparemment, sur les, tout ce qui est vélo sur mesure et tout ça, c'est assez demandé. Alors, c'est vrai qu'ils sont, ils ont un peu moins de puissance financière, en fait, par rapport à Shimano et SRAM. Donc, c'est pour ça qu'ils sont un peu en retrait par rapport à il y a quelques années. Et enfin, Michelin. Chez qui j'étais la semaine dernière, qui ont fait une présentation de leur nouvelle gamme, les Michelin Power. Donc ça ne remplace pas les Pro 4 qui existent toujours, c'est une gamme au-dessus. Et apparemment des pneus très performants. Donc on nous a avancé tout un tas de chiffres, etc. Mais moi ce que j'ai bien aimé dans la démarche, c'est qu'ils nous ont fait tourner sur les pistes de ces voitures avec des capteurs de puissance, une fois avec les Michelin Pro 4. Et dans les mêmes conditions, avec la même puissance, avec le Michelin Power. Et ils nous ont mesuré nos temps sur un tour de circuit. Et effectivement, moi, sur un tour de, c'était deux tours de circuit, l'équivalent de 10 km, il y avait un gain de 34 secondes pour moi. Donc, rien qu'avec les pneus à puissance équivalente.
En quelle section ?
25 mm. Maintenant,
quand c'est démocratisé, ça y est, 25.
Ouais, en fait, maintenant, les marques ils développent leurs pneus de suite sur du 25 mm.
Direct,
ouais,
25.
Après, ils déclinent 23 mm et 28.
D'accord, ouais. Mais voilà, le standard vient à du 25
voilà,
courant.
Voilà, c'est du 25. Et là, voilà, moi, un gain de 34 secondes, alors, c'était pas le même gain pour tout le monde, mais on était 40 journalistes, et le gain moyen était de 19 secondes.
Quand même,
donc,
ouais.
Voilà, juste avec des pneus, donc.
Sur 10 km.
Ouais, sur 10 km. Donc voilà, c'est. Et puis voilà. Donc,
c'est le secret de la Sky.
Est-ce que par rapport au Brogue, on se rapproche vraiment du.
Justement, ce qui est très intéressant, c'est que Michelin ne s'embête même pas à développer un boyau. Ils disent, on ne développe pas de boyau parce que si on développe un boyau, il sera moins performant que le pneu. Donc maintenant, c'est acquis pour pas mal de monde, c'est que. En tout cas, le boyau en lui-même, il y aurait un peu moins de rendement que le pneu. Après, il reste toujours la problématique de la roue complète, etc., qui est quand même plus légère. Donc, ce qui est important dans les côtes. Mais au niveau rendement intrinsèque, le pneu, ils arrivent à de meilleurs résultats qu'au boyau. Donc, en fait, ils ne s'embêtent même pas à développer un boyau, surtout que c'est un marché de niche pour Michelin. Donc,
Ah oui, c'est clair. Ouais.
Donc voilà, moi j'ai bien aimé la démarche parce que mine de rien, ils prenaient un risque avec 40 journalistes d'avoir des résultats totalement aléatoires. Et puis non, donc en plus c'était à 180 watts de moyenne, donc c'était pas non plus démentiel. Bon après ils pouvaient pas mettre 300 watts parce qu'on n'aurait pas pu tous le faire. Moi le premier. Mais voilà, apparemment un pneu très intéressant, donc qui est décliné en trois versions. Le Power Competition, donc comme son nom l'indique, plutôt destiné aux coursiers. Le Power Endurance. Plutôt pour les cyclos sportifs et le Power All Season qui offre beaucoup plus de grip notamment sur le mouillé.
Mais c'est vrai que Michelin, souviens-toi quand du 18 ils sont passés au 20 avec le Highlight qu'ils avaient sorti au départ, ouais. Qui était tout slick et qui sous la pluie tenait mais de feu de dieu quoi, un pneu slick qui tenait sous la pluie, tu dis mais c'est pas possible, ils ont toujours fait c'est vrai qu'ils étaient toujours la pointe du progrès quoi, ils ont sorti des pneus cross thermogomme, ils ont toujours été vraiment présents quoi, ils sont toujours présents quoi.
Et justement là, ça nous a permis de voir comment ils développaient leurs pneus. Donc c'est vraiment, ils ont puisé un peu partout, dans les pneus de route, les pneus de moto, etc. Ils ont un peu mélangé tout ça. Et on a vu notamment le test de pneus vélo sous la pluie, dans une espèce de rond-point en béton lissé, détrempé. Quand on voit la vitesse à laquelle les cyclistes tournent dessus, on se dit que nous, on est très très loin des limites d'adhérence quand on roule. Il y a la vidéo sur mon site, si vous voulez aller la voir, sur matosvelo.fr, je mettrai peut-être le lien tout à l'heure. Mais voilà, on voit que je crois qu'il passe à 30 km heure dans un rond-point. Et il y avait, c'est du béton ciré, il y a 5 mm d'eau. Donc, assez impressionnant, puis très, très intéressant de voir tout ce mélange. C'est pas le département vélo qui est tout seul, c'est vraiment.
Ouais, c'est un gros département.
Voilà,
ouais.
Ils puisent dans l'auto, la moto, etc. Donc. Voilà, voir ce que ça. Alors, le prix, pour l'instant, ils n'ont pas voulu le donner.
Je vois sur la moto, ils ont maintenant les composants bigomme sur les motos. Comme il y avait un premier sur les vélos, on avait les deux gommes noires et vertes. C'est vrai que c'est impressionnant. Moi, je me rappelle le commercial voir avec les deux boules. Il y avait deux boules, en fait, une verte, une noire. Et il te montrait, en fait, qu'une remontée de 70%, l'autre de zéro, vraiment l'amortissé, quoi.
Et là, ils ont justement pris le système bigomme des motos. Ils sont allés puiser aussi dans le département hiver, ce qu'ils appellent, donc c'est-à-dire des gommes qui, en dessous de 6 degrés, continuent à accrocher. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais un pneu qui a l'air très intéressant. Voilà tout.
Ben, très belle, très beau récit, très instructif et bien évidemment qui met l'eau à la bouche à tous les spécialistes. Guillaume, on retrouve tout ça bien sûr sur le site Matos Vélo. Merci, tu reviens quand tu veux et même avant un mois, il y a pas de souci.
La semaine prochaine, normalement, c'est bon.
Ouais, très bien. On a été complet. Max avait un peu d'actualité. Il y avait quoi le week-end dernier? On disait le Grand Prix de Sainte-Gabel. Vous y étiez tous les deux, messieurs, avec vos fonctions différentes. Ça s'est bien passé là-bas. Qui c'est qui a gagné? C'était un
ouais. C'est Esquer de Martigues qui a gagné une belle course parce que contrairement à certaines années, ça a toujours attaqué. Il y a toujours eu des échappées devant, même sur la fin il y avait un groupe qui était de 17 coureurs devant et on se disait putain, c'est la course est pliée, puis en fait non quoi, c'est rentré dans le dernier tour et Sébastien Pillon qui a attaqué, ils sont partis à 4 devant et ouais, il y a une course vraiment très indécise, on s'est vraiment régalé quoi, alors que d'habitude ça a éclaté, il y avait des coureurs partout, là on arrive avec un peloton encore d'une quarantaine ou cinquantaine à l'arrivée avec trois coureurs qui vont se disputer la gagne jusqu'à 2 km de l'arrivée où le coureur de Martigues attaque et puis il fait la descente tout seul. Derrière on a le coureur de Billot et Perrodon d'Arte qui se bagarre pour essayer de rentrer, finalement il rentre pas. Derrière Sébastien Pillon qui venait juste de lâcher un petit peu avant et le peloton qui est à 20-30 secondes derrière, donc faut savoir que l'arrivée sur Sainte-Gabel c'est une descente de 2 km. Donc voilà, c'est jamais gagné tant qu'on en a pas sa ligne. Donc non, vraiment très très belle course, on s'est régalé que ça soit des minimes cadets à la course des grands, course assez passionnante, animée voilà par toutes les cours. Il y a toujours eu des échappées importantes de quoi, c'était bien.
Max,
donc c'est la première fois que ça arrivait le peloton groupé comme ça derrière. Souvent il y en a partout, des groupes partout et là c'est vrai que c'est resté souvent groupé. Donc c'est intéressant de voir ça.
Il y avait moins de vent, c'est ça. J'ai entendu que les autres.
Il y avait quand même du vent au-dessus. Ouais. C'est surtout que je pense que les coureurs ont bien roulé cet hiver et que la plupart étaient tous au même niveau. Et c'est ce qui fait la différence comparé à d'autres années. Quoi.
Un petit coucou à Loïc Bouchereau.
Oui, j'allais dire.
Lourdement chuté sur le Grand Prix Bousquet, si je ne me trompe pas.
Oui.
Fracture du cubitus, plus au menton, etc. Donc c'est vrai que une grosse pince à lui. Et
le Vendée U, du coup, qui déclare forfait pour le triptyque des Monts et Châteaux. Donc à cause des nombreuses blessures de ces coureurs, vraiment.
Il y avait une photo impressionnante, ouais, justement, ouais, où les coureurs sont tous partis dans le fossé suite à une rafale de vent.
Donc ils ont annoncé ça dans un tweet là tout à l'heure. En tout cas voilà, on a une passée bien évidemment pour tous les coureurs de Vendée U. On a été complet, on peut fermer la boutique, Mélanie?
Non, on ferme pas encore. Juste l'annonce des courses du week-end parce, voilà. Alors samedi donc piste à foie, dimanche première concentration des écoles de cyclisme avec déjà 197 jeunes cyclistes engagés. Donc
À Saint-Gaudens.
Ensuite, deuxième étape du Tour du Tarn Cadet entre Trébasse et Saint-Jury. Première cyclosportive de l'année dans la région avec la cyclosportive L'Occitaine. Et enfin, première JV de la région, donc le RJV de Millau.
Voilà. Ça, c'est pour les courses à Midi-Pyrénées. La course qu'on regardera aussi à la télé, c'est le Tour des Flandres. Rapidement, le tour de table, le favori. Vous avez une seconde chacun. Je vous ai sorti les cotes. Allez, je commence pour une fois. Je vous fais part ma monnaie. Moi, je pensais que j'avais un gros coup à faire avec mon favori. Mais bon, vu comment il a montré ses forces au Grand Wevelgem le week-end dernier, du coup, déception. La cote n'est qu'à 4 contre 1. Fabien Cancellara, voilà, je le vois bien entrer dans la légende et être le premier coureur de l'histoire à remporter 4 Tours des Flandres. Il en est à 3, à égalité avec toutes les autres légendes. Je ne vais pas me mouiller, je vais miser Cancellara à 4 contre 1. Ça ne rapporte pas beaucoup, il va falloir mettre beaucoup de sous. Messieurs, Benjamin. Louis, Guillaume, vas-y.
Moi, pareil, Cancellara. C'est presque sa dernière course, et ouais, vu ce qu'il a démontré,
avec une équipe de quoi expérimenter. Julien
Van Avermaet.
Van Avermaet, là, ça paye un peu plus. 10 contre 1. Tu mets 10 euros, tu gagnes 5 euros. S'il gagne, bien sûr.
Il va gagner.
Mélanie.
Non, moi, je suis Cancellara. Je veux qu'il gagne son 4ème.
Vous
n'êtes
pas, varié dans l'équipe, mais c'est vrai qu'on sera avec Cancellara, bien sûr. Benjamin,
j'attends le prono demain.
Max, alors, Tige Benoud qui a fait 5ème l'an dernier, il te plaît pas, 26 contre 1, c'est pas mal.
Si on regarde les premiers, oui, il n'y aura pas de secret. Mais moi, je reste chauvin, je reste à lancer quoi qu'on est. Et je pense qu'il y a un Français qui peut faire quelque chose.
Ça paye contre 1, Arnaud.
Je dirais pas non, mais.
Ça paye. Arnaud démarre 67. 7 contre 1, un podium de démarre, c'est 15 contre 1.
Tu mets 100 euros offerts à 6700. Hein,
c'est pardon, mais attention, on est en confiance chez les Français.
Et donc, la grosse cote pour Benjamin.
Si je ne devais pas être chauvin, parce que forcément le cœur parlerait, je dirais peut-être une surprise, Lars Boom, si la Astana apprend à courir, puisqu'il a été ridicule hier.
ça fait court niveau timing.
Sinon, Miral Kwiatkowski.
Miral Kwiatkowski à 10 contre 1, c'est la même cote que Christophe qui revient en forme, le tenant du titre, qui est pas mal
un
du
un peu lourd sur les moments, quand même.
De la panne. Ouais, belle course, a priori. On va se régaler.
Je l'espère.
Allez, on clôture cette émission que l'on dédie bien évidemment à Antoine Desmoitiers et puis à Dan Minger qui nous a quittés ce week-end. Bien évidemment, c'est tout ce que l'on peut faire dans Radio Vélo. On vous souhaite à tous une bonne semaine de vélo et puis le podcast radiovélo.fr. Ciao les réseaux sociaux aussi.
Ciao, ciao. Tout le monde, ciao.